certitude. Tu sais maintenant que tes rêves disaient vrai. C'est toi la bête la plus dangereuse de la forêt. Tes sœurs ajustent leur souffle, leur rythme et leur sang, alignés avec la lune et leur colère. La magie les regarde dans les yeux. Goddess too.
Ce soir, au cabinet des banalités, François Provost, Raphaël Laverdière et Émile Lapointe vous parlent de l'alcool.
Busy, are you?
No, sir. Not busy at all.
Good man. You set him up and I'll knock him back, Lloyd. One by one. White man's burden, Lloyd, my man. White man's burden.
Alors, vous écoutiez un extrait du célèbre film, un thriller d'horreur, The Shining. On apprend que le drink du personnage de Jack Torrance, c'est le bourbon. Est-ce que c'est ça qui l'a rendu fou plus tard dans ce film? Qui sait? Car on sait que c'est un des grands potentiels de l'alcool. Il y en a plusieurs. Mais vous l'aurez deviné, donc on parle évidemment de l'alcool ce soir au cabinet des banalités.
Bonjour, bienvenue à notre troisième émission. On vous rappelle qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Nous, on est trois curieux de vraiment toute chose qui revisite l'histoire, l'impact du banal dans notre quotidien. La semaine dernière, on vous parlait des adages, des expressions, des proverbes. Cette semaine, on parle de l'alcool. Bienvenue dans le cabinet des banalités.
Et dans The Shining, donc Jack Torrance boit du bourbon, mais chacun a son drink de prédilection. Hein?
Absolument.
Et surtout, chacun a son style. Donc, pour entamer cette émission sur l'alcool, j'avais envie de vous parler des archétypes de la culture de l'alcool. Car je crois qu'autour... L'alcool est tellement quelque chose d'important au Québec et dans la plupart des sociétés, ça prend toute une place et... à sa propre façon, à sa propre couleur. Mais dans la culture québécoise, du moins, il y a certains archétypes des buveurs d'alcool et j'avais envie qu'on entame l'émission, on en parlait un petit peu. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, les amis. Moi, je sais que je me suis reconnu dans certains personnages. Mais d'abord, le sommelier. Donc ça, évidemment, on commence avec celui qui a le plus d'expertise, mais le sommelier, qui on dirait parfois parle une autre langue, et elle voyage dans tous les vignobles du monde. Et c'est très mystérieux de savoir comment un sommelier gagne sa vie, outre évidemment le fait qu'il est dans un restaurant et le conseil. Mais on dirait qu'un sommelier, dans ma tête, ça voyage tellement partout dans le monde que je me dis, voyons, c'est où vient l'argent?
C'est en dehors de nos considérations.
Oui, absolument. Ben, je veux dire, quand tu t'exerces un métier nomade comme ça, t'es comme un peu en dehors de la vie de beaucoup de gens, à part dans le contexte où tu travailles. Donc, genre... Moi, je connais pas personnellement de sommelier, là, je sais pas. Moi
non plus.
Tu es un personnage qui fait des apparitions.
Ouais. Pour moi, c'est aussi les mêmes personnes qui font de la magie sur les bateaux de croisière.
Ben, c'est un peu un spectacle, le sommelier, parce qu'évidemment, il y a une grande connaissance du monde des vins, mais en même temps, c'est aussi de le montrer d'une façon intéressante. Mais il y a aussi le penchant de la bière, l'amateur de bière de microbrasserie qui s'est développé au courant des dernières années, mais justement, celui qui est moins connaisseur de vin, mais plus de bière, on dirait qu'on le voit souvent. C'est une forme de hipster, souvent une barbe avec des stretchs puis une petite casquette béret. Et avec une grande culture d'Internet également, on dirait que ça vient ensemble.
Dis-moi, François, quand tu as trouvé cette définition-là, est-ce qu'il y avait une photo de toi à côté?
Non, mais je ne suis pas... Non, j'ai déjà porté la casquette béret. Et oui, je me suis intéressé beaucoup aux bières de microbrasserie. Mais effectivement, moi, c'est à date, c'est l'archétype qui m'allait le plus. Mais quoi que, vous allez voir qu'on peut être plusieurs. Parce que je suis aussi, je pense, le cinéphile, qu'on dirait que boire de l'alcool est plus un rituel. On dirait que c'est quelqu'un qui voit les films et se dit « Ah, me semble j'ai le goût de recréer tout le monde, une cinématographie à travers ma consommation d'alcool. » Donc, tu sais, les gens qui ont un bar, puis plein de verres, plein de spiritueux, puis attendent juste un moment de le partager avec quelqu'un en écoutant du jazz. Tu sais, on dirait quelqu'un qui veut tout le temps recréer un film de mafieux. Je sais pas si vous connaissez des gens comme ça, qu'on dirait que c'est plus le moment qui est important, oui, plus que la bouteille.
Ma soeur me fait penser à ça avec ses rushs. Pour les on the rocks, mais c'est des vraies pierres que tu congèles, tous les ustensiles, les instruments.
La cérémonie.
Tout est prêt. Oui, c'est comme la cérémonie du thé un peu. Tout est prêt pour faire un beau drink que tu trouves aussi beau que bon.
C'est très. C'est ça, ces personnages-là sont épicuriens, mais il y en a qui sont. Et je pense que c'est pas non plus les plus grands consommateurs, parce que peut-être en consommation peut-être de qualité, mais pas des grands buveurs. Il y en a justement qui est dans ceux qui boivent à petite dose. Il y a celui que j'appelle le traumatisé. Et on dirait que lui, il a vu des gens qui ont trop pris d'alcool et finalement ne voudront jamais en boire. Tu sais, celui qui n'ose même pas à peine boire une Bud Light au jour de l'an puis se sent quasiment mal. Oui. Je sais pas si vous connaissez ça. Il y a le tondeux de pelouse qu'on dirait que... on dirait que je l'ai appelé comme ça, mais celui que l'alcool... Se boit en fonction du mérite. Donc, la quantité de sueur que t'as évacuée dans ton corps, ben, tu peux reprendre l'équivalent en bière rendue le soir. Mais tu sais, déjà, on dirait que c'est après un travail. Toi, Émile, je pense que tu te reconnais un peu là, peut-être.
Ben, oui, un peu là. Ben, justement, je suis allé pêcher lundi. Je suis allé pêcher dimanche et il y a toujours la question de tu pognes pas de poisson si t'as pas de bière. C'est un peu ça. Ouais, c'est fatigant. Fait que c'est vraiment fatigant la pêche. Ça a de l'air relax, là, mais tu te rends à ton lac, te faire brasser sur le chemin de terre la barque puis tout. Puis pour ça, t'as besoin d'une petite bière pour récupérer l'énergie avec les bonnes calories.
Mais peut-être que t'es plus le prochain archétype qui est le buveur social. Il est assez connu, mais celui qui ne boit qu'avec des gens dans des occasions, mais seul ne boit pas. Moi, je sais que j'ai souvent besoin des autres pour avoir une petite consommation.
Plus le fun.
Il y a... comment que je l'avais nommé? La jeune dame qui boit du jeudredi, mais...
le vendredi aussi.
Oui, le vendredi, mais on dirait que la personne, ça peut être un homme aussi, mais qui boit une coupe de vin à chaque en fin de semaine pour chaque personne. On dirait qu'il a été tannant avec elle cette semaine. T'sais, à chaque coupe, c'est comme pour oublier quelque chose.
Ça m'inspire respectivement la dame de cœur, la carte, et le valet de cœur, on dirait. Je vois bien, genre, associé avec cette carte-là, je sais pas pourquoi.
Ah, ben, les liens se font, un petit quelque chose qu'on comprend pas. Puis les grands buveurs, évidemment, il y a le pilier de taverne dont les fesses sont imprimées sur le siège habituel. Moi, il me fait rire, celui-là. On dirait qu'il y a beaucoup d'expérience dans la consommation d'alcool, qui est très sociable. Il sait s'adapter à son auditoire. Tu sais, il est tout le temps capable de commencer une discussion différemment avec chaque personne, mais il finit tout le temps aux mêmes 3-4 histoires qui sont répétées incessamment.
Ton rodé.
Oui, exactement. Lui, il me fait rire beaucoup. Et il y a le porteur de caisse, la caisse de 24. Tu sais, celui qui amène tout le temps une caisse de 24, peu importe l'occasion. Et c'est souvent lui, on se fie sur lui pour organiser les jeux d'alcool, les jeux de beer pong. On dirait que...
C'est la vie du party, souvent.
Celui qui mène le party. Puis on dirait que la consommation d'alcool est souvent vue dans une prise de compétition. Tu sais, on participe à des jeux, puis il faut boire beaucoup.
Ouais.
Et finalement, le dernier personnage, celui qui me fait plus rire, je l'ai appelé le rédempteur. Parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il va consommer de l'alcool, on dirait qu'il veut expier tous les péchés du monde ainsi que les siens en s'infligeant les pires tortures de consommation d'alcool inimaginables. Donc, en mélangeant les stingers, la tequila, le sourpuss en dedans de 1 minute et demie, il va consommer beaucoup trop et finalement va se mettre à vomir toutes les souffrances du monde. Donc, je l'ai appelé le rédempteur. J'espère que vous n'êtes pas ce consommateur qui, malheureusement, est présent à quelques parties.
Non, pas ces temps-ci. Moi, je te dirais que je me trouve entre le buveur social et la jeune dame qui boit fâchée.
Qui boit fâchée.
Pour oublier ses tourments.
Excellent.
Mais toi, Émile, me semble que tu avais pensé à d'autres archétypes ou d'autres contextes comme ça.
Ben oui, moi, je me suis senti inspiré quand on parlait de boissons par les lieux où on consomme cette dite boisson et où on peut retrouver ces archétypes respectifs. Tout d'abord, la première chose qui m'est venue en tête, c'est les fameux western américains ou italiens, peu importe. Le western où un mystérieux cowboy arrive et provoque l'attention parmi les locaux, est-ce que c'est un bandit? Est-ce que c'est un ranger? Peu importe. Il s'est pointé au saloon et on le regarde de travers. dans un western classique, il est certain que la tension va escalader jusqu'à ce que les balles commencent à partir de droite à gauche parce que quelqu'un a triché aux cartes ou encore a couché avec la femme de l'autre, peu importe.
Ça finit toujours par jouer du piano et tout ça.
Exact, du piano, les
monkeys. Ouais, du piano.
Exact.
En buvant de la bouisson.
La bouisson. Puis ce qui arrive, par contre, c'est que ces stéréotypes-là qu'on connaît des films, la réalité des saloons américains du 19e siècle, parce que les cowboys étaient à cette époque-là aux États-Unis, c'est plutôt le divertissement et la boisson dans une ambiance assez tranquille et festive, malgré quelques exceptions violentes. Fait que on dira pas qu'il y a jamais personne qui s'est tiré dessus ou qui s'est battu dans un bar. Parce que
historiquement parlant,
historiquement parlant, on s'en souvient bien parce que c'est des exceptions, justement. Quelqu'un, je me souviens d'une histoire d'un homme qui faisait un shérif qui avait tué le frère d'un autre, puis il était dos à la porte, fait que l'autre est rentré, puis il a tiré dessus. C'est des affaires de même, là, mais c'est arrivé, ça se compte sur les doigts de deux mains, mettons.
OK, c'était pas monnaie courante de se faire pitcher à travers la fenêtre puis tomber dans le bassin pour les chevaux, là. C'était... Non.
Non, mais c'est une belle image, par exemple. Je la visualise très bien en noir et blanc. Non, le saloon, c'était plutôt un lieu social où ce qu'on consommait de l'alcool, on jouait à des jeux d'argent et on trouvait de la compagnie. Mais c'était aussi un lieu économique. Je parlais des jeux d'argent, justement. Quand je parlais de compagnie, ben il y avait aussi les prostituées.
C'est ça, il y avait comme à côté ou l'étage au-dessus, c'était là où les prostituées...
Je me souviens d'un propriétaire de saloon célèbre dont le nom m'échappe. Je pourrais le retrouver après la pause, qui avait un saloon très, très bien développé. Et sa femme possédait le bordel voisin. Donc, il fait une belle affaire familiale, très, très saine.
C'était vraiment une maison des vices, hein,
oui, où ils se côtoyaient. Absolument.
Encore aujourd'hui, les vices se tiennent souvent ensemble, quand on y pense.
Oui, c'est vrai.
Et les SAQ sont souvent flanqués d'un bordel.
Oh, Seigneur Dieu! Mais, oui, c'était parce que pendant longtemps, la prostitution n'était pas illégale aux États-Unis. Et finalement, il y avait un aspect communautaire, qu'on le croit ou non, mais on pouvait y voter dans les villages où il n'y avait pas de hall municipal, on pouvait y voter. Ils se tenaient des conseils de ville et même parfois des cérémonies religieuses. Quand il n'y avait pas de chapelle, on pouvait y tenir une messe, ça arrivait.
Il y a quelque chose qui me dit que dans la construction d'une ville, la taverne ou le bar était une des constructions premières. Et après, peut-être, on pensait avoir un...
On dirait presque que tu as lu mes notes, mais oui, c'est souvent le premier bâtiment qui s'érigeait au milieu des tentes de prospecteurs.
Parce c'est un lieu de rassemblement, hein? C'est comme une place publique,
oui,
un peu.
Oui, puis j'ai oublié de le préciser, mais tu sais, le 19e siècle, c'est la conquête de l'Ouest, là, aux États-Unis. Fait qu'il y a beaucoup de villes que tu as le chemin de fer. Puis les gens s'établissent autour rapidement. Fait qu'ils n'ont pas tout le temps de construire des maisons. Puis là, ils travaillent. Fait qu'ils n'ont pas le temps nécessairement de construire les maisons. Fait que ça prend du temps, tu sais, avant que ça se construise. Puis ils commencent avec quelques lieux communs, comme par exemple le salon et la chapelle qui vient au même moment ou un peu après. Oui, ensuite, justement... On s'imagine les bancs au bar comme on connaît aujourd'hui, mais j'ai appris que dans la plupart des salons, il n'y avait aucun banc au bar. C'était un bar debout. Et on n'avait pas de banc, mais au moins, on avait une belle serviette toute sale qu'on l'avait jamais pour s'essuyer la face. Donc, tu avais des dizaines et des dizaines de personnes qui s'essuyaient la face avec sans jamais qu'on la lave. Ça devait être vraiment bonne odeur.
C'était quoi l'idée de s'essuyer la face?
Ben, les gens arboraient souvent la moustache à cette époque. Une grande moustache qui s'imbibait facilement de bière ou d'alcool forte. Donc, on avait besoin... Ou peut-être ou on régurgitait un petit peu de... J'ai fait un petit rendu, comme on dirait. Éponger tout ça avec ta serviette sale et ensuite cracher ton tabac dans un crachoir prévu à cet effet.
Beaucoup de classe. Hein,
beaucoup de classe. Même que parfois, on encourageait les gens à cracher par terre parce que c'était fait comme chez vous et cracher par terre.
Un système immunitaire galvanisé.
Parce que chez eux, ils crachaient par terre. Faites comme chez vous, ils crachaient par terre.
Il y avait des affiches affichées dans certains saloons qui disaient à peu près ça, mais en anglais, bien entendu. Et finalement, malgré le rôle de lieu commun, le saloon voit d'un mauvais œil la présence, bien entendu, de femmes qui ne travaillent pas là. Donc, des femmes qui ne sont souvent pas ni des serveuses ni des prostituées. On est comme, vous ne venez pas ici, c'est seulement les hommes. Et c'est la même chose pour les minorités ethniques qui doivent se tourner vers certains établissements spécialisés dans les grandes villes, que c'est des tavernes qui sont tenues par des gens de leur propre communauté. Je me souviens du Boston Saloon, qui est dans une ville en Caroline du Nord, dont on a fait des fouilles, puis on a retrouvé des morceaux. C'est comme la preuve que ça a bien et bien existé, là, ces établissements-là, que c'était vraiment... Le tenancier était un Afro-Américain, puis les gens qui y allaient, c'était des Afro-Américains. Donc, je vais finir la section sur les westerns par quoi boire dans un saloon. On parle ici d'un whisky qui pourrait vous décaper le palais et qui est servi dans un verre qui est glissé sur 6 pieds jusqu'à votre main tendue sur le bord.
Ouais. Effectivement, on écoute beaucoup de films hein, pour
ah
ça.
Oui, ah oui, on a absolument l'image claire dans notre tête.
Mais c'est drôle de voir là, cette base historique, là, si on veut, de base ouais. pseudo-historique de ce qui est aujourd'hui le, les lieux de consommation d'alcool.
Ça doit être un peu comme l'accent de pirate. Ça doit venir d'un film que tout le monde a oublié c'était quoi le film, mais on se souvient juste de la passe-passe qui a été faite dans le film.
Tout le monde l'a copié par la suite.
Exactement, exactement. Ça a fait comme un standard.
Moi, ma culture de saloon vient beaucoup de Lucky Luke.
C'est un bon lieu où le prendre, c'est assez... tu sais, c'est plus tranquille, on s'entend, là, les bandes ben, dessinées.
Des fois, c'est ah, les bagarres.
Les Dalton bagarres. Avaient quelques frasques dans leur poche. Je vais faire suite avec un autre lieu où ce qu'on consomme de la boisson, c'est-à-dire dans les univers fantastiques, donc les tavernes des univers fantastiques, que ça soit médiéval ou de science-fiction, vous allez voir où je veux en venir. Elles sont aussi très présentes dans notre culture populaire. C'est souvent un lieu où ce que l'aventure débute puis qu'on reconnaît facilement les fonctions du mobilier, c'est-à-dire un bar, que ça soit un bar dans l'espace ou un bar dans un château, ça va être un bar, là. C'est facile à reconnaître. Et les types de divertissements disponibles, dépendamment de l'époque. On se souvient très bien de, mettons, dans Star Wars, on se souvient du jeu d'échecs en 3D, par exemple, ou toutes sortes de trucs comme ça.
Et le band jazz
et le band,
qui
oui,
extraterrestre. Non.
Le band dans la cantina dont tout le monde connaît la mélodie. On reconnaît facilement aussi les différents personnages et leurs rôles. Je vous donne l'exemple du barman, la barmaid, chasseur de primes, le noble, l'aventurier, peu importe. Ils sont faciles à reconnaître, on les spot tout de suite. C'est un lieu tout désigné pour apprendre à connaître des personnages principaux. Moi, je me souviens très bien d'Aragorn dans son coin sombre avec sa pipe qui éclaire son visage alors qu'on explique les rôdeurs.
Qu'on appelait Grandpa avant qu'on sache qu'il s'appelait Aragorn, le absolument. Fils d'Arathorn, le descendant d'Isildur et de Erendil. Et non, je connais pas.
Je peux comprendre pourquoi on l'appelle Grandpa, finalement. C'est plus court. et on peut penser aussi à Han Solo qui tire en premier sur son adversaire. Donc,
on souligne voir... que c'est lui qui tire en premier.
Lui qui tire en premier. On voit là qu'il y a plein de potentiel pour un auteur pour bâtir un monde différent et présenter à qui veut le bien... à qui... qui veut bien le voir, merci. Qui veut bien le voir, son monde qui est tout différent. Donc, on arrive là, c'est assez nouveau, mais c'est en même temps assez familier pour que ce fameux band galactique de jazz avec les instruments imbriqués dans la face, ça nous fasse pas trop peur et qu'on fasse comme « OK ». C'est juste assez bien.
On dirait que c'est juste une petite texture qu'on applique à un lieu qu'on connaît très bien là, avec exact. Les codes qu'on connaît.
Exact. Donc, quoi boire dans une telle taverne fantastique? Je dirais une bonne chope de bière plate servie dans une corne de bœuf façonnée en verre. Faut pas oublier de crier « À boire, aubergiste! » après chaque drink. Bon.
si je comprends ce que tu veux dire, c'est souvent là où l'aventure commence. Absolument. Dans l'endroit où il y a des méchants, où il y a des gens... Qui sont curieux, dont l'identité ne nous est pas encore révélée. Et c'est intéressant de voir aussi que l'alcool est omniprésent dans les œuvres fantastiques, dans les œuvres de science-fiction, dans des mondes complètement différents, dans d'autres univers. Et si ce n'est pas l'alcool sous la forme qu'on la connaît, ça va être une autre substance inhibante, le soma, l'épice, comme dans Dune. Donc, c'est vraiment... c'est omniprésent.
Je me vois mal prendre de l'épice, comme dans Dune, de manière récréative, parce que ça te fait voir dans le futur et partout en même temps. Donc, c'est difficile de jouer au beer pong avec de l'épice. J'essaie de voir le verre, mais je vois dans une autre galaxie, en tout cas.
Et c'est drôle aussi qu'on n'est pas capable de... Ben, en fait, qu'on a cette tendance-là, à, même si on invente un nouveau monde totalement, ben, il faut quand même qu'il y ait son alcool et son lieu de consommation de cette boisson. Là, c'est intéressant.
Absolument. Donc, je vais finir avec mon troisième lieu, c'est-à-dire, dans notre Québec à nous, on retrouve les tavernes, ou nos propres tavernes, notre propre version des tavernes, qui ont été longtemps le refuge des hommes qui buvaient, parlaient librement, rigolaient ou écoutaient encore de la musique, ou la fameuse game, comme ce soir, Canadien Tampa Bay.
D'ailleurs, je vais aller regarder le score, ça ne me dérange pas. C'est quand même la finale de la Coupe Stanley, ça arrive pas mal.
Souvent. Pas souvent. À tous les 28 ans, si on se fie aux statistiques. Donc, c'est ça, l'expression taverne, pour désigner ce lieu-là que je viens de décrire, ça existe depuis la fin du 19e siècle, environ 1880. Mais l'existence légale de ces tavernes-là remonte à 1921, c'est-à-dire une initiative de la Commission des liqueurs, c'est-à-dire le prédécesseur de la Société des alcools du Québec. C'est quoi la différence entre la taverne puis les autres lieux d'alcool, me demandez-vous? C'est que la tradition veut...
On ne l'a pas demandé.
Non, vous ne l'avez pas demandé, vous l'avez pensé, par exemple. La tradition, ça veut que seuls les hommes y entrent, puis le permis qui est octroyé spécifiquement aux tavernes précise que aucun autre débit de boisson n'est autorisé à vendre de la bière en fût sur place. Donc, c'est la bière en fût, c'est comme la vente rapide, là, comme on considère. Elles vont conserver ce monopole-là jusqu'en 1960, fait quand même une quarantaine d'années. La taverne québécoise classique, elle existe au moment où ce que l'Église, la moralité et le travail aliénant prennent beaucoup de place. Donc, ils ont comme les hommes ont besoin d'une soupape de relâchement pour sortir la pression. Ça crée tout un symbole qu'on peut retrouver dans la pièce de théâtre québécoise Brou, qui est très, très connue.
Un grand classique.
Un grand classique. Les tavernes connaissent un essor constant à partir de leur apparition jusqu'au crash boursier. Il y a comme un calme plat. On comprend que quand le monde n'a pas d'argent, ils n'ont pas d'argent pour boire dans une taverne. Mais là, les années 40, ça revient. Puis les tavernes vont renaître de leur cendre et trôner au sommet du podium de l'ébriété jusque dans les années 80. Donc, ils sont progressés. Mais là, dans les années 80, à partir de là, ça est reconverti en brasserie, en bar. Des trucs qui s'éloignent un peu plus de la taverne classique où on siège les piliers de taverne, comme tu parlais tout à l'heure. Je vais vous poser un petit quiz rapidement. Depuis quand une Québécoise peut savourer une broue assise dans une taverne au bar pas loin de la porte?
Oh.
Donc, l'an zéro, ça serait l'option A, ou le Big Bang parce que l'ivresse, c'est universel. Le B, ça serait 1979 parce que l'alcool, ça a toujours été un petit peu phallocrate. Et C, c'est impossible, une femme qui boit de l'alcool, elles ont même pas le droit de se stériliser les mains au Purel parce que ça contient de l'alcool, le Purel.
Moi, j'aurais tendance à dire B parce qu'il faudrait vraiment être crétin pour les deux options, les deux autres options.
Raph, t'allais-tu dire d'autres choses? Si oui, ben, tu viens de te faire insulter.
Oui, un petit peu quand même. Moi, j'aimerais croire A, mais j'ai l'impression que c'est B et que l'alcool, c'est un monde phallocrate.
Ben, je suis content qu'aucun de vous deux ait dit C ou ait pensé que c'était C sérieusement. Ça aurait été un petit peu dommage. Mais oui, il faut attendre 1979 pour que la fameuse interdiction légale aux femmes d'accéder aux tavernes soit levée. Cette interdiction-là remonte à 1937. Donc, on parle de presque 40 ans, 42 ans d'interdiction légale des femmes de rentrer dans un établissement public.
C'est quand même piche.
Quelque chose. C'est de la pisse, oui. C'est un beau cadeau du gouvernement Duplessis qui s'était donné à l'époque une mission de protéger les bonnes mœurs de la société. Je peux pas m'empêcher de dire ça en riant parce que c'est un petit peu spécial comme objectif.
Mœurs. Hein? Oui, donc les bonnes mœurs, ça change aussi.
C'est ça. Si on met ça en mœurs d'aujourd'hui, ça fait pas vraiment de sens.
Utérus et alcool, ça se mélange pas bien.
C'est un peu comme le traité qui disait que si tu conduis un train, si les femmes pouvaient pas prendre le train parce que leur utérus allait tomber.
À cause qu'il allait trop vite.
C'est physique, ça.
Oui, c'est ça. Tout ça pour dire que de son progressisme légendaire, Maurice Duplessis s'était dit que les femmes avaient probablement beaucoup trop de droits, donc fallait limiter ça au plus sacrant pour conserver la bonne société québécoise. À cause de carrément empêcher l'accès dans un lieu public aux femmes, ben c'est devenu un enjeu, vraiment une image forte de l'essor du féminisme au Québec, parce que c'est arrivé en même temps que c'était l'essor du féminisme de deuxième vague. Les femmes, entre autres des universitaires, allaient faire des drink-in et entrer dans les tavernes malgré l'interdiction pour boire une bonne bière et choquer les vieux monsieur. Et cette bière-là, j'espère, avait une bonne saveur de révolution.
Oh!
C'est beau.
Donc, quoi boire dans une taverne québécoise? Une grosse broue en compagnie de tes meilleurs chums de filles pour bien choquer les vieux croulants. Hein? Pas pire, hein?
Ben oui, c'est très bon.
Bien serré.
Bon, hein? Puis, juste avant qu'on aille à la pause et qu'on écoute... on écoute une petite chanson.
Toi aussi, t'es phallocrate,
oui,
je pense.
Hein,
on va aller écouiller les vieux coulants.
Bon, on était rendu là, on parlait de féminisme, là, on est dans l'action. C'est quoi votre expérience, je pense, au western, par exemple? Est-ce que vous avez un film qui vous a marqué, par exemple?
Un film western?
Ouais.
OK, ça a-tu rapport à la consommation d'alcool?
Une scène dans un film. On va dire aussi fantastique, western. Y a-t-il une scène en particulier qui vous a marqué dans la culture populaire?
Moi, c'est la scène dans Seigneur des Anneaux où Merry et Pipin découvrent les pintes.
Ah oui. Mm-hmm. Oui, ça, oui, oui. Parce qu'ils vont dans le monde des humains.
Des humains où la bière est géante.
Oui, pour un hobbit, ça fait pas mal un pichet.
Oui, dans le film, en parlant de western, il y a un des westerns les plus récents, mais Django Unchained, oui. Où le protagoniste Django se fait offrir une bière dans un bar où je pense qu'il avait pas le droit de mettre les pieds de par son ethnie. Donc là, il est comme super content de pouvoir boire une bière dans un lieu public. Ça, c'est une belle scène, ça. C'est un très bon film.
Ben oui, on parlait justement à l'époque, ça devait être considéré justement des bonnes mœurs que de faire ça, mais aujourd'hui, on s'entend qu'on sait, on sait mieux. Mm. We know better. C'était carrément en anglais ce que je viens de dire là. C'est pas grave. Donc, on va aller à une petite pause publicitaire qui sera suivie de la chanson Bière de Émile Bilodeau. Donc, on se retrouve après tout ça.
Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
De la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, pis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
Victory! Écoute!
Viens me voir, on ira boire ce doux nectar jubilatoire qui nous rend fous, qui nous rend flous, qui donne le goût d'être entre nous et de chanter, puis de scraper le karaoké qu'on a loué la veille. Pauvre de nos oreilles, les chansons sont éternelles, mais le soleil lui se réveille. Oh, de la bière, s'il vous plaît, donnez-moi de la bière pour oublier que je passerai pas l'hiver. De la bière, pour oublier que je mérite pas de dessert. De la bière. S'il vous plaît, donnez-moi de la bière pour oublier que je verrai pas la mer. De la bière, de la bière pour oublier tout ce que j'ai laissé en arrière. Sobre et noble ne sont pas nos nuits d'octobre qui, devant un hot dog, finissent par tirer la plug de nos vies. Déjà 3h30, y'a l'argent qui s'enfuit de nos poches et nos amis qui marchent un peu croche. Moi je connais ces gens qui ne pourraient pas vivre autrement qu'en espérant ces soirées plutôt bien arrosées, où tout le monde commence par chanter, où tout le monde finit par crier. Oh, de la bière, s'il vous plaît, donnez-nous de la bière pour oublier qu'on passera pas l'hiver. De la bière, de la bière pour oublier qu'on mérite pas de dessert. De la bière, s'il vous plaît, donnez-nous de la bière pour oublier qu'on verra plus la mer. De la bière pour oublier tout ce qu'on a laissé en arrière.
Donc, re-bienvenue au cabinet des banalités. On s'est pas fait surprendre du tout par la fin de la chanson. Non, non, non. Personne ne dirait ça. Donc, oui, on entendait « Bière » de Émile Bilodeau, une très belle chanson.
Elle t'émeut, cette chanson-là, Émile.
Ben, une phrase en particulier, c'est ça que je vous disais à la pause, justement, cher collègue.
Pas avoir de dessert.
Oui, c'est ça. Non, c'est « On ne verra plus la mer ». Il y a quelque chose qui... On dirait que dans ma tête, ça me sous-entend quelqu'un qui est comme trop vieux pour se rendre à la mer, puis il pourra plus jamais la voir. Puis que c'est seulement un souvenir. Donc, ça m'attriste un petit peu. Bière! On parlait d'alcool! Mais cette tune-là parle aussi d'alcool, notre thème de ce soir. Donc, François, je pense que tu avais quelques trucs à nous dire là-dessus.
Ben oui, mais comme Émile Bilodeau le disait, tu sais, la bière, c'est un peu un pansement de l'âme, parce qu'il faut oublier certaines choses. Mais c'est intéressant, c'est l'alcool, justement, parce que c'est pas totalement sympathique, l'alcool. Donc, c'est pas pur. C'est pas uniquement bon, de l'alcool. Je vous dis ça, puis vous le savez, et peut-être certains le savent d'expérience, mais l'alcool, ça a souvent été considéré comme un vice. On n'a qu'à penser aux années de prohibition aux États-Unis, qui étaient assez célèbres, et avec les fameux mouvements de tempérance. Mais je sais pas si vous le savez, mais il y a aussi une prohibition au Canada et au Québec, qui a été beaucoup... leur existence a été beaucoup plus courte. Donc, au Canada, on parle de 1918 à 1920, et au Québec, ça a duré quelques semaines. Donc, ça n'a pas été une législation qui a fait fureur au Québec, donc malgré qu'il y a eu des petites lois ici et là, mais ça reste qu'on n'est vraiment pas la prohibition américaine qui, on le sait, a causé tellement de crimes et tellement de gens ont voulu...
ça a duré des dizaines d'années, prohibition aux États-Unis. Hein?
Oui, puis ça crée des problèmes parce que le monde, vous veulent boire leur bière, mais c'est ça, c'est que l'alcool, justement, il y a tout le temps une petite ambiguïté, je dis morale, point interrogation, parce que est-ce que c'est pas immoral de boire de la bière, mais c'est juste que ça peut nous faire faire des choses qu'on ne devrait pas faire. En plus, que ça peut, on sait qu'une consommation excessive n'est pas bonne pour nous. Donc, mais c'est intéressant comment que malgré tout, ce substrat-là, la base de la culture autour de l'alcool, c'en est une qui va tout le temps avoir une petite ambiguïté au niveau moral, si on veut dire ça comme ça, puis ça vient comme imbiber tout ce qui est bâti par rapport à ça. Tu sais, nos rapports à l'alcool sont jamais unilatérales.
Ils sont toujours connotés.
Oui, il y a toujours des zones grises. Là. Un exemple qui est assez évident là, au Québec avec la SAQ, la Société des alcools, que c'est son rôle, c'est de régir la consommation d'alcool quand on y pense. Parce que, tu sais, elle nous vend de l'alcool, mais c'est aussi d'encadrer tout ça pour que ça se fasse selon les bonnes mœurs de notre époque. Mais autant quand on dit qu'il y a des flous, il y a des zones grises, autant que la Société des alcools va régir notre consommation, en même temps, elle va nous faire la publicité pour la vente d'alcool. Tu sais, c'est genre de petit paradoxe intéressant qu'on est au courant que c'est un vice, mais on va vous en faire la promotion par publicité, venez nous acheter de l'alcool. Donc
sensibiliser de l'autre côté.
Exactement, mais il y a tout le temps un flou qui persiste dans tout ce qui est autour de l'alcool. Et aussi, comme on le parlait un peu tout à l'heure, mais il y a l'aspect épicurien autour de la consommation d'alcool. On dirait que lorsqu'on parle, par exemple, de certains vins, il y en a qui proviennent d'Italie, de France, de Portugal et tout ça, et les microbrasseries qui font des bières artisanales de grande qualité, très créatives, les gins québécois, par exemple, qui font la promotion des aromates du terroir, c'est tout des excellents produits, mais ça reste que c'est très épicurien, c'est des bons produits, mais il reste que c'est de l'alcool, et on le sait que lorsqu'on en consomme, évidemment, c'est une vérité de la palisse, là, mais quand on en consomme trop, c'est pas, peu importe le raffinement, ça fait la même situation.
Est-ce que quand on en consomme pas trop, justement, ça donne pas un effet de rendre ça cheap? Quand on en a un peu, puis que c'est spécial, là, il y a une élégance, mais quand on en boit trop, on tombe dans le côté plus cheap.
Je pense que ça... Puis aussi, la définition de un peu pour certains doit varier. Là. Ils doivent avoir que c'est une bière par mois. C'est juste assez pour satisfaire leur... Justement, ces besoins comme d'avoir quelque chose de spécial. Puis il y en a que c'est peut-être une bière par jour. Ça doit dépendre.
Ah oui, mais c'est particulier, mais c'est juste... on voit qu'il y a les habitudes de consommation, donc c'est rare que les gens vont se saouler à des grands millésimes là, qui proviennent de l'Espagne, là, parce que ça coûte trop cher, puis tout ça, mais ça reste que c'est de l'alcool quand même, et qu'il y a une... ça ferait le même effet, dans le sens que t'en bois de façon trop excessive, mais on voit que c'est des... c'est des patterns de consommation qui sont différents. Là. Mais c'est drôle là, de penser à ces, justement, ces flous-là parce que autant pour les vendeurs, comme par exemple la Société des alcools, que pour le consommateur, ça fait qu'il y a une petite responsabilité morale autour de la consommation d'alcool. Il faut être responsable et il existe une sorte de contrat social entre l'individu et la société que donc on donne le droit aux gens de boire de l'alcool, mais c'est quand même, il y a des lois autour et c'est pas n'importe où que ça se passe. Donc, Émile, tu parlais de les fameuses tavernes, mais les fameux bars, mais justement, c'est des endroits qui ont été consacrés uniquement à la consommation d'alcool et c'est des endroits qu'on dit que c'est socialement acceptable de le faire, mais c'est pas uniquement de boire de l'alcool, mais c'est aussi tous les comportements autour de la consommation d'alcool qui, dans certains endroits, deviennent tout d'un coup socialement acceptés. Parce qu'on sait que qu'est-ce que ça peut faire, une grande consommation d'alcool, même une minime, jouer sur l'inhibition. Donc, on va avoir moins tendance à réguler son propre comportement, à faire des trucs que normalement on ne ferait pas. Puis, ça donne toutes sortes de comportements qui ont libre cours et parfois, on pourrait dire, sont un peu passionnés, là, si on veut le dire comme ça. Mais, parce que ça peut aller du bon ou du mauvais, toutes ces choses-là.
Et le chaînement des passions.
Mais c'est ça. Mais évidemment, les bars, les tavernes, c'est des endroits qu'on consomme. Mais tu sais, il y a les restaurants, les casinos, il y a certains hôtels ou festivals. Qu'on se donne le droit de boire un peu, ou il y a des endroits comme le Sud. C'est drôle qu'au Québec, on comprend ce que je veux dire, mais aller faire un voyage dans le Sud, il y a comme... ou même des voyages de pêche, donc c'est plus près, tu en as parlé, Émile. On se donne ce droit-là d'avoir une consommation d'alcool et des comportements qui viennent avec.
Et c'est intéressant de constater que tous ces endroits-là que tu as nommés sont des endroits où l'alcool est en quelque sorte de mise, mais les comportements vont être acceptés, mais à différents niveaux. Ils vont pas tous avoir les mêmes règles non écrites.
Exactement, parce que, tu sais, mettons, on parle d'un bar, tu sais, qui est vraiment l'endroit par excellence qui est dédié uniquement à ça, là. Après danser, c'est un prétexte, là, mais on s'en va là pour boire de l'alcool, mais on voit que ça crée d'autres... Donc, on sait que les gens vont venir consommer de l'alcool, donc ça crée d'autres impératifs, comme il y a des bars qui ont ce qu'on appelle un bouncer, là, ou un portier, mais tu sais, des gens qui sont, quand on y pense, sont payés à s'assurer que les gens qui sont trop qui ont trop consommé ne feront pas trop de grabuge.
S'ils en font trop, on les lance dans l'abreuvoir pour les chevaux.
Oui.
Par la fenêtre.
empêcher les mineurs aussi.
Exactement, oui. Aussi, parce que, comme on disait, il faut que ça... Il y a toute une législation autour de ça. Et on le sait aussi, même... c'est dans la loi au Québec, ça varie d'un endroit à un autre, mais c'est aussi à 3 heures du matin, c'est fini. Là. À un moment donné, le party doit arrêter et on arrête de vendre de l'alcool à 3 heures du matin. Donc, il y a tout, c'est vraiment intéressant de penser qu'il y a des lieux qui sont faits pour boire de l'alcool et il y a tout le temps ce genre de valse, de danse entre qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on nous permet de faire, mais qu'est-ce que les lois viennent encadrer. Et à l'intérieur d'un milieu qui est tellement fascinant de par justement le côté, tu sais, les gens qui boivent de l'alcool beaucoup, là, souvent dans les bars, ben, tu sais, c'est tellement de passion qui sont libérés. Là, on le sait, ces endroits-là, paradoxalement, le bar, ça va être l'endroit où j'imagine le plus de vandalisme, dans le sens que les gens pètent des choses parce qu'ils deviennent niaiseux. Mais en même temps, l'endroit où il y a sûrement le plus de déclarations d'amour faites à ses amis ou à des étrangers, parce qu'il y en a qui, on le sait, qui vont juste dire hey, « Toi, là, je te le dis pas d'habitude, là, mais là, tout d'un coup, l'inhibition tombe, ils vont avouer leur amour. » Donc, c'était paradoxal. Ouais. C'est l'endroit où il y a des gens qui vont pleurer, d'autres qui vont danser. Il y en a qui vont se mettre à chanter, d'autres qui vont vomir. Toutes les passions
parfois,
sont...
Parfois, tout ça en même temps.
Toutes en même temps.
En résumé, la satisfaction d'une soirée comme ça va venir du fait qu'on a flirté avec les lignes de la conduite sociale, de la conduite en public. On a flirté avec les limites de notre propre personnalité.
Oui, aussi. C'est qu'on va on s'en va explorer l'étendue de l'expérience humaine, même dans quelque chose qu'on sait qui n'est pas fondamentalement bon, mais qui est plus libéré. C'est des passions qui sont libérées, malgré que ce soit bon ou mauvais. Ben, il y a des lieux qui donnent un petit terrain de jeu pour que l'être humain essaye ses différents comportements. C'est vraiment... C'est intéressant, je trouve. Vous ne trouvez pas?
Ben oui, bien entendu, nous aussi, on trouve ça Super intéressant.
Je trouve ça vraiment intéressant.
C'est comme un petit cercle humain, là. On dirait qu'on voit des gens faire des niaiseries, puis c'est comme c'est implicite qu'on a le droit de le faire à ces endroits-là.
Je suis vraiment d'accord avec toi, puis je trouve que tu as vraiment mis le doigt dessus. L'alcool nous fascine un peu parce que il y a le pouvoir de nous transformer, il y a le pouvoir d'intensifier une situation, qu'elle soit joyeuse ou qu'elle soit triste, autant qu'elle peut l'engourdir, la situation.
C'est vrai.
Et il y a cette idée-là à propos de l'alcool qu'à cause justement de ses propriétés inhibitrices, eh oui, c'est un beau mot, l'alcool nous confronterait à quelque chose qui est vrai, comme ce que je disais tout à l'heure, pousser les limites de notre propre personnalité, révéler nos secrets si bien gardés en temps normal, chez nous-mêmes, chez les autres personnes aussi. Et c'est ça, n'est-ce pas sous l'effet de l'alcool qu'on a le courage, pour le meilleur et pour le pire, tu l'as dit, de vider son sac, de révéler les tréfonds de son âme qu'on garde habituellement fermé quand on n'est pas sous l'effet de l'alcool.
C'est peut-être pour ça aussi que l'alcool, parfois, on pourrait dire des vertus médicinales. Là, je mets des gros guillemets, mais dans le sens qu'il y a des trucs peut-être qui se disent, des choses qui auraient dû être dites il y a bien longtemps, qui étaient refoulées dans la psyché, et tout d'un coup, ça sort. Là,
exactement,
bien.
Un certain effet thérapeutique
exact,
dans certains
exact,
cas.
Exact.
À faire avec tact et modération aussi, parce que comme tu l'as dit, on est toujours comme en équilibre sur un fil. On peut tomber d'un côté ou de l'autre et ça peut être beau ou quand ça peut être mauvais aussi.
Mm-hmm. Puis surtout que l'équilibre de quelqu'un en état d'ébriété n'est pas le meilleur.
Ben justement, l'équilibre, ça m'amène à vous parler de quelque chose que je trouve très intéressant. Qui dirait que selon certaines personnes, une consommation modérée d'alcool, ça serait la porte d'entrée vers un bien-être et un équilibre de vie. Prenez note ici que je ne vous invite pas à consommer de l'alcool de n'importe quelle manière. Mais il y a en Finlande une pratique qu'on appelle le kalsarikani, qui est appelé aussi « pants drunk ». Donc, c'est en Finlande. Oui, « pants drunk », je vous explique pourquoi. C'est une pratique qui, selon les adeptes, prétend mener vers un état de relaxation grâce à la consommation contrôlée d'alcool chez soi, sur son divan, dans ses sous-vêtements. Alors, ça s'appelle le « kalsarikani ». Et on connaît déjà l'influence scandinave dans le monde de la quête du bien-être et de l'équilibre. Peut-être que ça vous dit quelque chose quand je vous parle de Iggy ou quand je vous parle de Lagom.
Non.
Ça sonne une cloche, plus style méditation, belle vie,
ou un
coach de vie,
ouais,
sacré viking.
C'est ça, on est un peu dans cette vague-là là, de la recherche du bien-être. Donc le Iggy, ça nous vient du Danemark, c'est un petit peu l'art de créer un environnement chez soi où on va se sentir le mieux possible, ça va être le plus beau possible pour vraiment avoir le meilleur état d'esprit quand on est chez soi. Donc, c'est un travail sur l'environnement. Et tandis que le Lagom, qui nous vient de la Suède, de la Norvège, c'est une attitude au quotidien, une philosophie de vie pour être le plus ouvert possible, bon, le plus équilibré. Et on a le pants drunk qui vient de la Finlande, qui s'ajoute à cette liste-là, qui, contrairement au Iggy et la gomme, serait, selon encore les gens qui sont adeptes de ça, vraiment adapté à une vraie vie qui n'est pas tout le temps belle, qui est occupée, qui est demandante, une vie moderne dans les années 2010-2020.
Quelque chose que les adeptes du pants drunk se diraient plus lucide ou plus réaliste?
Ben oui, il y a de ça, c'est ça exactement, parce qu'on n'essaie pas de créer un beau portrait qui n'existe pas vraiment. On est vraiment dans l'authenticité avec le pants drunk.
Pas dans les idéaux, les grandes idées, là. On essaie d'y aller de ce qui est vraisemblable.
Exactement. L'idée du pants drunk, c'est que tu te confrontes aux choses qui te stressent et le peu d'alcool que tu as dans ton sang fait en sorte que tu es capable d'accueillir avec conscience les choses pour te sentir très bien. Donc, le pants drunk, je vous dis que je vous expliquerai d'où ça venait. Donc, en finnois, kalsarikani. Kalsari qui veut dire sous-vêtement et kani qui veut dire l'état d'ébriété. Donc, c'est être en état d'ébriété dans ses sous-vêtements. Et d'après le guide que j'ai emprunté sur le kalsarikani, ça serait
général... Il y a un guide?
Oui, il existe un guide, oui, qui est sorti en 2018. Ça se fait généralement seul. Ça peut se faire à deux aussi. Et selon le guide, on peut cimenter sa relation de couple grâce au Calsaricani en duo. Et les conditions pour une séance de Pence Jung réussie sont les suivantes. Il faut que la journée de travail soit terminée. Donc, avoir plusieurs heures devant soi sans avoir d'obligation.
C'est vrai que boire le matin avant de commencer un travail, c'est peut-être pas conseillé.
Pas recommandé, non.
Exact. Donc, c'est ça. C'est d'avoir vraiment du temps devant soi, plus de stress qui se rajoute à sa journée. Avoir une conscience assez propre. Dans le guide, il parle de cleanish, donc pas obligé d'avoir rien à se reprocher, mais être assez en paix avec soi-même. Être en sous-vêtements ou en linge.
Très important.
L'important, c'est d'être confortable. Ensuite de ça, être dans un endroit intérieur. Donc, la meilleure place, ça serait chez vous, sur votre divan. Ça peut être aussi au bar, chez un ami. Il faut que ce soit température pièce parce que vous êtes peut-être peu habillé. Il faut que vous soyez confortable. C'est important d'avoir des collations, des snacks à manger. Donc, on peut penser à des bonbons, des chips, n'importe quoi qui est sucré, qui est salé, qui crunch. Ensuite, ça prend de l'alcool, évidemment. Donc, juste assez. Il ne faut pas être saoul, ce n'est pas ça le but. Il ne faut pas être malade. Juste assez pour sentir un bon petit buzz. Ensuite de ça, ça prend, comme touche finale, des bas de laine, qui est une part primordiale de l'uniforme du Pinstrunk.
Mais à quel point c'est sérieux, cette chose-là? Parce qu'on dirait qu'il y a une stratégie quelque peu intelligente de consommation, mais là, les bas de laine qui sont de l'uniforme, tu sais, une moquerie, là.
Oui, exactement. Puis justement, en faisant mes recherches, j'ai trouvé que les écrits qui existent sur le Pinstrunk sont quand même peu nombreux. Ils sont assez légers, ils sont assez humoristiques. Ils prônent aussi la modération, mais c'est vraiment quelque chose qui est très associé à la Finlande, cette manière-là de consommer de l'alcool. Ça date pas d'hier. Donc, on n'est pas dans l'invention là, qui sort de nulle part. On est vraiment dans quelque chose qui est rattaché à la culture, qui est rattaché à l'histoire. Je vous en parle tout de suite après. Mais je voulais vous dire que dans le guide, il recommande de faire des choses qui nous font sentir bien. Donc, ça peut être bâiller beaucoup, la bouche grande ouverte. Ça peut être de s'étirer, de faire du yoga, toutes sortes de choses. Il parlait aussi de faire comme si on jouait de la guitare dans les airs, faire comme si on faisait du drum. Et la chanson qu'il recommandait est Blitzkrieg Bop des Ramones. Donc ça serait la chanson à écouter pour faire du Pants Junk.
Il y a quelque chose qui fait de bien, parce que cette chanson-là, pour ceux qui connaissent moins de noms, c'est le fameux « Hey, oh ». Let's go. Ça fait très Arena, puis Arena aussi, je trouve ça fit avec la consommation d'alcool. Oui. D'ailleurs, la game du Canadien, là, c'est quoi, là?
Non,
excusez-moi.
Tu iras après.
Oui, j'irai après.
Bon, je vous disais tout à l'heure qu'on est dans l'authenticité un peu brutale. On est en bobette, on n'a rien à cacher, on est soi-même à 100%. Et le Iggy, le Lagun, je vous disais, ça produit des images, des mises en scène qui sont très esthétiques, donc très appropriées pour Instagram et ses pairs. Donc, on peut penser notamment à la tasse de thé prise à la lueur d'une chandelle devant la fenêtre où on voit le paysage de neige qui tombe doucement. Pants Junk, c'est l'antithèse de ça. C'est l'antithèse de la performance, de la prétention. Et ce qui est bien avec ça, c'est que virtuellement, il n'y a pas de manière d'échouer à être Pants Junk.
Parfait.
Cool.
Donc, tu essaies de l'être, tu réussis tout de suite. C'est ce qui est bien.
Mais comme une consommation excessive, ce ne serait pas une façon d'échouer le Pants Junk?
Oui, dans un sens, oui. Si tu es malade, si tu ne te sens pas bien, ben là, tu as quand même échoué. Mais c'est quand même de ta faute.
Mais personne ne t'en tiendra.
Non, exactement. Tu n'as personne pour documenter ton aventure. Fait que tu as quand même gagné, tant qu'à toi. Et bien sûr, ça nécessite une ouverture d'esprit. Il faut que tu te laisses porter « go with the flow », comme ils disent, pour être bien « pants junk ». Et l'alcool serait ici un raccourci vers le bien-être. Donc, pas besoin de faire la rénovation de ton salon, de t'acheter 10 000 plantes ou de changer ta philosophie de vie. Une séance de « pants junk » peut t'amener rapidement vers ça. Apparemment.
Vers la sérénité. Est-ce qu'on peut atteindre le nirvana avec le Pants Drunk, l'éveil spirituel, c'est possible? Ou...
Ben, je vous encourage à essayer. mais c'est ça, je vous disais, la gomme lingui. Donc, c'est pas incompatible avec ces pratiques-là parce que le bien-être, la joie de vivre, c'est le but qui est visé dans toutes ces pratiques-là. Mais le Danemark et la Norvège, la Suède auraient des racines un peu plus profondes dans la recherche du bien-être que la Finlande, qui, elle, s'est tournée vers peut-être quelque chose de plus rapide, peut-être, comme, comme remède. Et on disait tout à l'heure que c'était une pratique qui est ancrée dans l'histoire, dans la culture de la Finlande. La Finlande, qui était une société agraire, et le rayonnement industriel et économique de la Finlande est plutôt récent. Pour la petite histoire, des choses qu'on associe aujourd'hui à la Finlande que vous connaissez, c'est la chanson de Darud, Sandstorm.
Ah, ouais.
Qui est un des premiers grands hits de musique électronique, qui est la chanson que tout le monde téléchargeait c'est sur LimeWire. C'est finlandais.
Ok.
Exactement. Vous pourrez écouter ça en faisant du Pen's Junk. Il y a le jeu Angry Birds, qui était bien populaire il y a quelques années, et les fameux téléphones Nokia. C'est finlandais.
Ah.
Voilà, ça n'a pas beaucoup rapport, je voulais juste le plugger.
Nokia, ça fait finlandais, on dirait.
Et maintenant, la culture finlandaise nous donne le Pen's Junk.
Exactement.
Qui est sûrement quelque chose qui était pratiqué de façon pas... écrite comme ça par certaines personnes.
Pas institutionnalisé.
Ouais, c'est ça.
Un peu la beauté de ça, c'est que tu crées ta propre manière d'être Pen's Junk. Le guide nous amène juste des suggestions qui sont bien drôles. Mais c'est ça. Tu construis ta propre séance de Pen's Junk pour trouver l'état que tu veux rechercher. Ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, je vous disais tout à l'heure, la Suède, la Norvège, ce sont des racines plus profondes dans l'histoire du bien-être. En Finlande, on parle de l'idée de la stéréotype de boire seul chez soi parce que on parle du manque de contact social entre les Finlandais à cause que c'est un grand pays, quand même peu densément peuplé, où tu peux être très éloigné les uns des autres. Un pays qui est froid, qui a pas beaucoup de lumière pendant l'année. Donc, on comprend l'idée de vouloir rester chez soi.
Et on dirait que tu décrivais un peu le Canada et le Québec. Je veux dire, il y a quand même certains traits communs là,
entre ces endroits-là. Exactement. Je trouve qu'on peut se reconnaître un petit peu dans ça. Puis, je pense que c'est quelque chose qui vient nous chercher comme pratique parce que, justement, ça nous ramène à nos propres habitudes qui sont vraiment pas loin de ça. Et justement, la pratique du Pen's Junk aurait eu une hausse de popularité à cause de la pandémie qui a forcé
laquelle, les gens... Laquelle, peux-tu être plus précise?
Ben, celle de 2019.
Ah, OK, la grosse.
Non, pas 2019, 2020.
Ouais.
Ouais. Quoi 2019 a prêté son nom.
2019, le virus était là, mais on s'en foutait. OK, voilà. C'est ça, les gens se sont mis à trouver que c'était quand même une activité agréable qu'on pouvait faire en restant chez soi dans ses bobettes. Et en conclusion de cette émission...
on a hâte d'aller chez nous puis pratiquer le Pen's Junk.
Juste avant, je t'intercepte.
Vas-y, intercepte-moi.
Avant qu'on fasse la conclusion de l'émission, je voudrais savoir, vous, un contexte pour boire puis un drink qui fit avec ce contexte-là, qui vous est cher à votre cœur personnellement?
Moi, j'ai ma réponse. Je dirais, avec mes amis, moi, j'ai des amis avec qui je joue de la musique et je prends grand plaisir à boire des gin tonic avec eux.
Ah.
Et des gins, justement, tantôt, je vais le plugger un peu, mais des gins du Québec avec des aromates du terroir boréal, des bons gins, et pris avec modération, bien sûr, mais ça, c'est un des contextes que j'apprécie ma consommation.
Wow, très précis, excellent.
Moi, j'ai une idée de contexte qui m'est peu arrivée souvent dans ma vie, mais en Irlande, sur la terrasse d'un pub irlandais, où, soit dit en passant, un vrai pub irlandais, tu retrouves rien d'autre que de la bière ou de l'alcool fort, mais ils te font pas de cocktail. Là, avec une belle bière rousse, le nez un peu frite, ça, c'était un spot idéal.
Excellent, excellent.
Et toi, Émile?
Ah, ben moi, ça serait dans une cabane en bois rond. Après soit une journée de raquette ou d'être dehors, je trouve que la bière rentre au pouce en général, parce que moi, je suis un grand amateur de bière et je trouve que c'est un moment parfait pour la déguster. Tu y allais avec une conclusion de l'émission, Raphaël?
J'y allais avec une conclusion, mes chers amis. La pandémie m'a amené à réfléchir à ça, que... Il y a la majorité de nos habitudes qui ont été complètement bouleversées par ça. On est tanné d'en entendre parler, ça fait déjà longtemps. On commence à revenir un petit peu à la normale. Et l'alcool a été une des choses qui a perduré tout le temps en cas de la totale perturbation de tout le reste. L'alcool est resté dans nos vies. Et ça me faisait rire quand j'ai écouté une entrevue avec le directeur général d'Éducalcool qui disait que pendant la pandémie, les gens ont eu peur de manquer de deux choses, le papier de toilette et l'alcool. L'alcool, une substance qui est plusieurs fois millénaire, la popularité perdure mondialement, universellement, au point où c'est inutile de parler de popularité. On devrait plutôt parler d'un véritable fait social total, au sens où l'entendait Marcel Mauss, un anthropologue. C'est une notion qui a été beaucoup utilisée, beaucoup abusée, mais ça s'impose dans ce cas-ci pour décrire l'éternelle présence et importance de l'alcool dans nos vies. Et comme d'habitude, on aurait pu en parler encore très longtemps, pensant notamment à la place de l'alcool dans le religieux, dans le sacré, dans la médecine, la culture populaire, la chimie de l'alcool, etc.
Excellent. On écoute en ce moment le Sandstorm de The Rood, qui a été cité par toi-même, Raphaël, comme étant un joyau finlandais. Donc, merci pour cette belle conclusion. C'était donc le troisième épisode du Cabinet des banalités et ça concernait le merveilleux monde de la boisson.
La boisson.
On se retrouve lundi prochain à 19h30 et cette fois-là, on va parler de vaisselle.
Oui!
Yes! La vaisselle.
Que vous avez dans vos armoires et vos tiroirs chez vous.
Exact. Aux ondes de Chiz 94.3. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
Tu es en manque de festivals, de spectacles en personne, de découvertes musicales? Eh bien, ouvre tes oreilles. Le Festival Off de Québec est de retour cet été avec son petit Off volume 2. Un peu comme l'été passé et suivant les consignes sanitaires, c'est une version un peu réduite du festival, mais ô combien chaleureuse et riche en découvertes musicales. 13 spectacles en personne sur 5 jours, 5$ par spectacle, c'est capoté. Le Petit Off volume 2, co-présenté par la Fabrique culturelle et Chiz 94.3 du 7 au 11 juillet dans la cour extérieure des ateliers du réacteur au 715 rue Saint-Vallier-Est. Programmation sur québecoff.org, billets en vente sur lepointdevente.com.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Veuillez prendre note que l'émission qui suit a été enregistrée à une date antérieure à aujourd'hui. Il se peut que certaines informations ne soient plus à jour. Merci d'avoir choisi Chiz 94.3.
Quoi de neuf tout le monde, c'est Damien pour le Beatnik Show sur les ondes du 96.5 Bas-Saint-Laurent et du 94.3 Québec.
Vous écoutez le Beatnik Show avec Nicolas Leclerc sur les ondes de Chiz 94.3 et de CKMN 96.5.
Oh yes, ayo tout le monde, hein? Enfin le retour en ondes du Beatnik Show avec des nouvelles playlists, nouvelles émissions. Rempli de gros sons hip-hop comme d'habitude, québécois, toujours en direct de CKMNFM à Radio Chiz 94.3, aussi à Québec, en rediffusion les lundis avec votre animateur, moi-même, Nicolas Leclerc, en arrière du micro pour vous divertir avec ma flopée d'artistes. Au niveau du rap québécois, toujours aussi dans les gros sons frais sortis et surtout les bons vieux classiques. Je vais vous avouer que je suis bien content d'être là, d'être revenu en onde avec des nouvelles émissions. Ça va faire les rediffs, on en a assez. On recommence le chiffre du jeudi pour vous en mettre plein les oreilles. C'est juste pour vous, hein, ma gang de camé du rap keb. Et aussi, quand je mentionne pas mal tout le temps à chaque émission, le live Facebook, toujours disponible à partir de la page Beatnik Radio. En ce moment aussi, pour les playlists disponibles, c'est aussi disponible sur Spotify. C'est que du lourd, hein, comme je dis aussi si bien. Ça revient, mais là, on va avoir du nouveau aussi vers la fin. je vais en parler un petit peu tantôt, mais là, pas tout de suite. On va vous en mettre plein les oreilles dans vos speakers. D'ailleurs, pour commencer en force, ou plus pour finir, comme je viens de dire, restez avec moi jusqu'à la fin. Surprise, entrevue avec artiste. J'en dis pas plus. Je vais vous laisser découvrir. Ça va être qui? D'ailleurs, on aura la chance d'écouter une de leurs nouvelles chansons juste à la fin. Mais pour commencer, tiens, les terrasses sont ouvertes, les soirées se terminent tard. Alors, on décolle le show avec Tactica dans un été chez nous sur les ondes de CKMN et de Radio Chiz pour le Beatnik Show.
On profite du beau temps chaque fois ensemble.
Y'a rien de mieux que le vibe d'une journée d'été. J'ai passé l'hiver à me léger, j'me plains pas, il fait 30 degrés. Yeah. On échange les tours de cuir pour les camisoles de basket. Les filles se déshabillent pour les gars, la chasse est ouverte. Man, check la longueur de sa jupe. À se prendre le cul de même, on pourrait croire que c'est une pute. Yeah. J'peux être sûr qu'on les regarde quand même. On roule les fenêtres baissées avec du Snoop Dogg dans le système. On se relax, relax. C'est capturer une boisson fraîche sur une terrasse. Toute la clique se rejoint à même place. Peu importe l'endroit, en autant qu'il y ait une sac, pas loin d'où ce qu'on va. Come on, roule avec moi, suis le beat avec nous. C'est l'été pour tout le monde, c'est de même ça marche chez nous. On est fiers de nos traditions, c'est pour ça qu'on se met à boire. On n'a pas de fond, pas de fond, pas de fond.
L'été est arrivé, ça les brillants. Les terrasses sont mises sur le sterminza. On profite du content, chaque soir on sort. Chaque soir on sort, chaque soir au bar. L'été est arrivé, ça les brillants. Les terrasses sont mises sur le sterminza.